Ils ont changé le monde. Les vêtements. Yvan Jacob.
C'est le seul vêtement qui n'a pas changé d'un pouce en 80 ans, histoire d'un repris de justice balnéaire, le bikini.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins.
Ce que va inventer Lou Reard, c'est le côté minimaliste.
Son petit ici.
Quatre triangles, deux pour les seins et deux pour les culottes.
Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé.
La scène se déroule en juillet 1946 autour du bassin bleu de la piscine Molitor. Micheline Bernardini, danseuse du Casino de Paris, défile devant quelques journalistes vêtus d'un maillot de bain si réduit qu'aucune mannequin professionnelle, dit-on, n'a accepté de le porter. C'est là que naît l'une des premières légendes du bikini. Son créateur, Louis Reard, lui a donné le nom d'un atoll du Pacifique où l'armée américaine vient de réaliser ses essais nucléaires. Le message est explicite, ce petit bout de tissu est conçu pour faire l'effet d'une bombe. Et si la déflagration médiatique n'est pas immédiate, elle est bien réelle dans les années qui suivent. Interdit sur les plages, censuré au cinéma, le bikini est visiblement plus qu'un simple vêtement de bain. C'est un objet politique qui interroge notre rapport au corps, à la pudeur et à la norme. Le témoin de ce que notre époque accepte de montrer ou cherche à cacher. Le bikini n'expose pas seulement le corps, il met à nu la société, ses contradictions, ses tabous et ses crispations. Mais derrière tout ce bruit, que dit vraiment le bikini ? Instrument de libération ou nouvelle forme d'injonction au corps parfait, instrument de pouvoir ou de contrôle, conquête ou illusion, le vêtement est aussi minuscule que les questions sont grandes. Car ce n'est pas le bikini qui est complexe, c'est le regard que l'on pose dessus. Aujourd'hui, on parle du bikini et de la façon dont il a changé le monde. Et pour remonter toute cette histoire aussi balnéaire que politique, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Golupo. Vous êtes un expert du bikini et un immense collectionneur. Vous avez constitué pendant plusieurs décennies une des plus belles collections au monde. Vous avez aussi écrit « Bikini, la légende » avec Ghislaine Rayet, un livre paru chez Michel Lafon il y a 10 ans pour les 70 ans de cette invention. L'année prochaine, Patrice Golupo, le bikini aura 80 ans. Pourquoi avoir dédié votre vie à un maillot de bain ?
J'ai pas dédié ma vie à un maillot de bain, j'ai été simplement intéressé par les maillots de bain en général et pas par les deux pièces, mais par les une pièce et en particulier par les une pièce américaine de l'époque bénie du balnéaire américain, c'est-à-dire les années 50. J'allais pour mon autre travail régulièrement à Los Angeles et régulièrement je voyais des belles choses et régulièrement je les achetais. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai acheté 1, 2, 3, 10, 20 maillots de bain comme ça. Et sachant que j'achetais des maillots de bain surtout aux États-Unis, j'ai continué à en acheter en France et dans un lot un jour... il y a eu des bikinis qui étaient très beaux, dorés, avec des petites marques sur le côté en émail. Je n'y ai même pas fait attention dans la mesure où personne ne savait ce que c'était. Et en gros, c'était le premier Reard et celui qui servait à faire de la promotion sur les plages, le fameux Reard doré, qu'on a eu dans nos collections pendant plusieurs années sans y faire attention. Mais on a commencé à s'intéresser vraiment au bikini Et à l'histoire, et à Réard, et nous voilà ce soir, comme dirait Jacques Brel.
Louis Réard étant l'inventeur du bikini. Mais en tout cas, le bikini était caché sous les maillots une pièce. Vous dites que le bikini est un ovni de la mode. Pourquoi ?
Parce que, justement, c'est arrivé par hasard, pas par un grand couturier, puisque justement, c'était un petit boutiquier.
Louis Réard.
Louis Réard. Il a trouvé un trésor, malheureusement, il n'en a pas profité. Et donc, il a fait cette invention, et il a eu cette idée de faire quelque chose de très très petit. Parce que le maillot de bain de pièces existe déjà depuis... première photo qu'on ait retrouvée, c'est 1933 à Molitor, dans la fête de l'eau.
Oui, là où... c'est un deux pièces qui ressemble d'ailleurs vraiment à un bikini aussi, parce qu'il montre le nombril.
Ça ressemble, la culotte est assez haute, mais suffisamment basse pour voir le nombril. Et le nombril est très 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 important. Dans, justement, vous parliez du politique tout à l'heure, et en particulier aux États-Unis, donc voir le nombril, c'est totalement impossible, impensable. Donc les États-Unis mettront longtemps à avoir des maillots de bain qui permettent de voir le nombril, ce qui était déjà le cas en France, donc à partir de 1933. Et on voit aussi, même pendant les deux étés magnifiques, 36 et 37, des premiers congés payés, où on voit pas mal de maillots de bain qui sont en général des maillots de bain faits à la maison, parce que de toute façon, on n'a pas eu le temps de faire les courses. Et d'ailleurs, il y avait très très peu de marchands de balnéaires.
Peu de production, ouais.
Donc voilà. Donc le nombril n'était pas un vrai problème chez nous. Par contre, ce que va inventer Louis Réard, c'est le côté minimaliste. C'est-à-dire que quand on regarde bien les photos de Micheline Bernardini à Molitor, il y a quatre triangles de tissu, deux pour les seins et deux pour les culottes. Donc, en gros, on dit souvent qu'il a inventé le bikini, moi je dis souvent qu'il a inventé aussi le string.
C'est vrai que le haut ne change pas vraiment avec ce qu'on peut voir dans les années 1930. En revanche, le bas est beaucoup plus échancré et plus petit, et plus bas aussi.
Ah ben, c'est deux triangles qui tiennent par une ficelle de chaque côté, d'où le string. Donc voilà, le vrai problème, c'est que contrairement à tout ce qui se dit et tout ce qui se dit régulièrement, c'est un flop terrible.
C'est ça, donc le bikini ne fait pas du tout l'effet d'une bombe au départ, il passe plutôt inaperçu. Est-ce que vous pouvez rappeler le contexte de ce 5 juillet 1946 ? Parce que c'est une fête qui se déroule dans la piscine Molitor, et à cette occasion, il y a un défilé de jeunes femmes en maillot de bain, c'est ça ?
Ça s'appelle les fêtes de l'eau, ça existe depuis 1929. Et donc, il y a des élections de Miss Molitor, Miss Maillot de Bain, la plus belle baigneuse et autres. Et c'est un rendez-vous incontournable, qui va être contourné pendant la guerre,
ouais.
Et qui va revenir en 46. Donc c'est très important en 46 parce que c'est la première année où justement les fêtes de l'eau repartent. Donc voilà, donc c'est une grande fête où il y a le tout Paris, où il y a beaucoup de journalistes. Donc c'est très très important pour justement la communication. Et c'est aussi pour ça que Louis Réard va dire « je veux en être ».
Et qui était Louis Réard ? Vous avez travaillé sur sa biographie, on le connaît assez mal, vous avez dit que ce n'est pas un couturier. Et c'est vrai que dans le monde de la mode, il est assez méconnu. C'était un ingénieur au départ, c'est ça ?
C'était un ingénieur, mais il n'a pas été longtemps ingénieur. Apparemment, d'après ce qu'on sait, il avait un caractère assez spécial. Et donc, il a fait très très peu d'années dans le monde de l'automobile.
Oui, parce qu'il travaillait pour Peugeot, au départ.
Oui, mais je pense qu'il n'a pas travaillé longtemps. Donc, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il avait des idées bien trempées, même mieux trempées que les gens qui l'employaient. Donc, en gros, c'est direction la porte. Et très, très rapidement, il va changer de profession. Et il va travailler dans la mode, enfin la mode entre guillemets, mais dans la maille, ce qu'on appelait la maille.
Les tricots.
Il va faire ce qu'on appelle des pull-overs maintenant, des tricots. Il va s'associer avec le monde de la nuit, le monde de la musique, le monde du spectacle, en particulier le Casino de Paris, c'est-à-dire comme ça qu'il aura Micheline Bernardini.
Oui, parce qu'on disait que c'est parce qu'il n'avait pas trouvé de mannequin, en fait il était sous contrat avec le Casino de Paris, et c'est plutôt pour ça que c'est une danseuse du
voilà,
Casino de Paris qui a
présenté. Il était très ami avec Henri Vernat, qui était le directeur, donc il n'y a aucun problème. Surtout qu'en plus, Il avait déjà fait des choses avec les tricots. Il avait fait des choses en associant sa marque, qui était donc les tricots Réart. Il avait associé sa marque à l'image de Maurice Chevalier, de Mistinguette. Donc c'était un des premiers à faire ce genre d'accord. Il a gagné pas mal d'argent avec ses tricots.
Un grand sens du marketing. Mais qu'est-ce qui le pousse à faire du maillot de bain?
Le hasard. Et puis après, surtout, la guerre va tout changer. La guerre va tout changer parce qu'il va y avoir justement l'apport des Américains. Il va se tourner vers quelque chose de nouveau.
Il cherche à se diversifier.
Les maillots de bain en sont une solution.
Et alors pourquoi bikini?
Alors pourquoi bikini? Parce que, en reprenant la chronologie des bombes atomiques, parce que tout est là, première explosion atomique dans le plus grand secret, le 16 juillet 45. Donc le 16 juillet 45, c'est la première bombe atomique. Et là, personne n'est au courant, sauf les services secrets, puisque ça se fait dans le désert du Texas. Par contre, quelques jours après, le 6 et le 9 août, là, c'est pas secret, puisque c'est Hiroshima et Nagasaki qui font 200 000 morts immédiatement, plus tous les morts d'après. Donc, on va dire c'est forcément un fait de guerre extrêmement important, puisque c'est médiatisé planétairement. Donc la bombe atomique est très très importante. Donc les Américains vont se dire, il faut absolument qu'on continue le développement de la bombe atomique, mais il faut le faire avec les gens.
Dans un objectif de dissuasion aussi,
c'est-à-dire contre les gens.
Il faut en faire la promotion pour que le monde sache que...
On va faire la promotion de cette invention. Et donc, ils vont trouver un endroit où on peut faire des essais de bombes atomiques. Mais là, contrairement au Texas, on va le faire en médiatisant énormément. Et dans cette médiatisation, ils trouvent un îlot dans les îles Marshall qui est absolument impeccable pour faire des essais, pour être là, pour dans l'îlot d'à côté, avoir tous les journalistes. Donc c'est médiatiquement très très bien fait.
Et c'est un atoll qui s'appelle Bikini.
Et cet îlot s'appelle Bikini. Donc et pendant le tout début de l'année 46, il va y avoir une médiatisation terrible sur le déplacement des populations. Enfin, des populations, ils sont 150, les habitants de l'atoll. Mais tout ça va être filmé par les Américains et le monde entier va... Donc, on entend parler de bikini et d'une manière positive.
Et donc, c'est un pur objectif marketing pour
Weir. C'est complètement du marketing. Ça s'appelle Crossroad. L'opération Crossroad, c'est du marketing à 100%.
Mais Louis Réard aussi, c'est-à-dire qu'il va utiliser ce nom parce qu'il est connu, parce qu'on en parle beaucoup.
Louis Réard va s'intéresser aux îles Marshall, à Hawaï et autres. Et comme c'est un allumé du dépôt de marque, il va en déposer des centaines dans sa vie. Il dépose Soleil d'Hawaï et autres, des choses comme ça. Et la médiatisation du bikini fait qu'il se dit, à quelques jours de Molitor, je vais déposer bikini aussi. Et il le dépose en juin.
10 jours avant l'explosion de la bombe.
10 jours avant, il se dit, je vais déposer bikini parce qu'il se dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc voilà, ça se fait. 10 jours après, il montre pour la première fois, découvre pour la première fois son maillot, et rien.
Alors, on parle de bombe atomique, mais on parle aussi de bombe anatomique. Il y a des jeux de mots de cet ordre-là qui apparaissent. Il y a aussi un lien avec une femme, une actrice qui s'appelle Rita Hayworth. Le film Gilda sort cette même année, 1945 ou 46. Je voudrais vous passer cet extrait parce que c'est une de mes scènes préférées de toute l'histoire du cinéma. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Patrice Golupeau, quel rapport entre le bikini et Rita Hayworth, vous le savez?
Il y a assez peu de rapports. À part que Louis Réard, qui n'hésitait pas, on va dire, faisait la promotion en disant que son maillot de bain était le maillot de bain le plus connu dans le monde, plus connue à Hollywood et que tout le monde le portait, en particulier Rita Hayworth, en particulier Esther Williams, alors qu'à cette époque-là, Esther Williams était très connue comme la nageuse comédienne de toutes les grandes superproductions d'eau. Il s'est arrogé cette clientèle américaine est très très connue. Ce qui était possible à cette époque-là, ça serait plus que possible
oui,
maintenant.
Oui, parce qu'on n'avait pas les moyens de savoir si Rita Hayworth portait effectivement des maillots réards.
Voilà, puis même Rita Hayworth n'était pas au courant qu'il y a un petit boutiquier en France qui disait qu'elle portait le bikini. Donc en gros, il y a des très très belles pages dans Cinémonde. Parce qu'il y avait un accord entre Réard et Cinémonde, donc il laissait rien au hasard au niveau médiatique, avec une pleine page avec Rita Hayworth, avec un maillot de bain, qui sera copié par Louis Réard pour montrer que le maillot de bain de Rita Hayworth est le sien. Donc c'est tout à l'envers. Donc non, il n'hésitait pas quand même.
Mais alors j'ai découvert quelque chose que j'ignorais totalement assez récemment. Il y avait apparemment un poster de Rita Hayworth dans le film Gilda, peint ou collé, ça dépend des sources, sur l'ogive de la bombe qui a explosé sur l'atoll de Bikini. Parce que Gilda était la première grosse production que les G.I. Voyaient en rentrant de la guerre et que l'actrice était devenue un sex symbole absolu. Et l'historien américain Paul Samuel Boyer, il évoque le complexe lien psychologique entre Eros et la destruction atomique qui fait qu'on a accolé l'image de femme à la bombe atomique et qu'on a utilisé ce jeu de mots bombe anatomique.
Je sais pas qui est un jeu de mots uniquement en français.
Hein. Oui, donc,
voilà.
Mais en
ça marche
cas,
pas dans les autres.
Rita Hayworth a été totalement ulcérée de l'usage de sa photo sur
cette complètement, bombe atomique. Mais de toute façon, surtout les nez des bombardiers, il y avait ce qu'on appelle les pin-up. Donc c'était tous les bombardiers avaient leur pin-up et donc il y en a un effectivement qui a eu Rita Hayworth, mais c'était un grand classique.
Alors, on va écouter les actualités françaises qui rappellent quelques jours plus tard ce qui s'est passé le 5 juillet 1946 à la piscine Molitor.
Ici on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Paulette Dubost n'a pas l'air de s'ennuyer et Madeleine Sologne remet à la gagnante une coupe dans laquelle tiendrait à peine son maillot. Mais voici mieux, cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite. Nous venons de voir les humains faire les singes. Ici, ce sont les singes qui font les hommes.
Ivan Jacob.
C'est une super archive de 1946. Vous le disiez, il n'y a pas grand-chose dans la presse, à part un entrefilé dans l'Aurore, François qui en parle rapidement, mais c'est pas du tout
un scandale. Et on vient d'entendre, les seules personnes qui les intéressent, c'est pas Réard, c'est Andrex, Madeleine Sologne et Paulette Dubost, qui sont les trois people qui sont venus là pour remettre les prix. Donc,
alors il y a un autre nom qui est souvent associé au bikini, c'est celui du couturier Jacques M. Qu'a créé Jacques M. Parce qu'on parle souvent de l'atome dans les années 30, c'est pas vrai, c'est en 1946. Il y a souvent cette erreur qui est faite, mais il a quand même créé un maillot de bain de pièces au début des années 30.
Il a créé un maillot de bain de pièces, mais ils sont nombreux à avoir créé des maillots de bain de pièces. Donc, faut pas croire que le deux pièces arrive avec le bikini. Il y a déjà presque 15 ans qu'il y a des deux pièces. Donc, Jacques M, c'est un des couturiers avec Jean Patou, Chanel et autres qui s'intéresse au maillot de bain et lui va créer juste avant l'Oréard un maillot de bain qui s'appelle Atome.
Et qu'il appelle le plus petit maillot au monde.
Voilà, et là ils vont faire une compétition de slogans publicitaires avec Louis Réard. Et le vrai problème, c'est que Louis Réard s'attaque à un vrai couturier, qui était le fourreur des plus grands couturiers, puisque c'était son premier métier. Après, il est devenu vraiment couturier, et couturier très connu, dans la mesure où c'était quand même le couturier de Madame de Gaulle et de Madame Eisenhower. Donc, Louvrière, avec une petite boutique qui montre les fesses de Micheline Bernardini, on n'est pas dans le même monde. Donc voilà, et Louvrière en sera toujours contrarié, voire mortifié.
Et alors pourquoi il s'appelle Atom, celui de Jacques M ?
Ben parce que c'est à cette époque-là, on s'est rendu compte que c'est ce qu'il y a de plus petit dans l'univers. Donc plus petit égale donc le maillot de bain de pièces qui laisse voir le nombril. Voilà.
Et qu'est-ce qui différencie Atom du bikini, Patrice Golupeau ?
Pas grand-chose, à part que si on regarde le bikini de Molitor et le bikini d'après, il y a une grande différence. Le bikini de Molitor était fait pour choquer.
Et la culotte de Jacques M, elle est quand même plus couvrante que le bikini.
C'est une culotte de couturier. Voilà, on est pas là. Jacques M n'est pas là pour faire le buzz.
Il a une boutique à Cannes, une autre à Biarritz, Jacques M. Et c'est aussi un moment, vous le disiez, où les créateurs de mode se lancent dans la mode balnéaire parce qu'il y a des opportunités de business, tout simplement. C'est un business assez nouveau à ce moment-là.
Ce qui est nouveau aussi, c'est le business balnéaire tout court. Le business, si on regarde les trains, il va y avoir des affiches absolument partout pour faire la promotion des voyages, pour aller à Royan, à Cabourg, mais à Nice. Donc le business balnéaire, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde, donc la mode.
Alors le fait qu'il y ait deux bikinis qui arrivent la même année à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça peut sembler assez soudain, mais c'est en réalité le résultat d'un long processus multifactoriel. D'abord, le développement des bains de mer.
Ça commence en Angleterre, en 1740. Très rapidement, ils vont passer le Channel et ils vont venir en France, parce qu'il doit y avoir une demi-heure de soleil en plus. Et donc, ils vont venir à Dieppe, et dès 1830... Dieppe va devenir la première station balnéaire. À partir du moment où on est dans le Second Empire avec Napoléon III, il va y avoir un gros développement déjà du côté de Dieppe, puisqu'on dit même que l'empereur allait se baigner tous les jours. L'impératrice, ayant eu dans sa jeunesse des bons souvenirs du côté de Biarritz, elle demande à ce que justement Biarritz soit développé en tant que station balnéaire, et donc il y aura donc la Villa Eugénie. On aura la même chose du côté d'Arcachon avec les frères Perrer qui vont construire une ligne de chemin de fer jusqu'à Arcachon parce que ce sont les amis de l'empereur. Donc le Second Empire va être quelque chose qui va être très très important pour le développement balnéaire. Ce qui est important sur le développement du balnéaire, c'est que ça commence par la thalasso. Donc au début, il y a de la thalasso, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, c'est de la thalasso partout. Arcachon, c'est de la thalasso. Mais au bout d'un moment, les gens qui viennent sur ordonnance se faire soigner s'aperçoivent que c'est vachement bien quand même le bord de mer. Alors que le bord de mer, avant, c'est quelque chose qu'on fuit. On va passer de la thalasso au balnéaire en quelques années.
Et à ce moment-là, les maillots de bain sont extrêmement couvrants. Ils sont en laine, ça ressemble à des tuniques aujourd'hui.
C'est très très couvrant. C'est-à-dire que les premiers maillots de bain, c'est jusqu'aux chevilles. Donc il n'y a aucun problème. C'est en coton. Et après, quand on changera de construction, quand les maillots de bain seront par exemple unisexes, comme dans les années 1925, ça sera en laine. Donc le maillot de bain en laine, c'est a une particularité, c'est que il fait 500 grammes à sec et il fait 4 kilos quand vous ressortez de l'eau.
Voilà. Il s'agit pas de nager, c'est plutôt de se tremper dans l'eau. Mais alors justement, on va se mettre à nager aussi, parce qu'il y a un développement de la pratique sportive et de la natation.
Alors le développement de la natation viendra très très tard, dans la mesure où, dans un premier temps, les bains de mer seront des bains où on se trempe et il y a des poteaux qui sont perpendiculaires à l'axe de la plage. Il y a des poteaux avec des cordes. Et on se tient aux cordes pour aller dans l'eau jusqu'au cou.
D'un poteau à l'autre.
De toute façon, d'un poteau à l'autre, en tenant les cordes. Mais de toute façon, personne ne nage parce que personne ne sait nager. Voilà, ça viendra beaucoup plus tard.
C'est-à-dire ?
Dans les années 30-40. Voilà, juste avant la guerre et après la guerre, parce que évidemment, il y a toujours ces 5 ans qui font qu'on a autre chose à faire que d'apprendre à nager.
Et il y a un autre facteur à partir des années 30 aussi, autour des années 30, c'est celle du bronzage. Donc les maillots deviennent un peu moins couvrants parce qu'on a envie d'exposer sa peau.
Alors le bronzage, ça commence dans les années 1920, en particulier à Venise, sur la plage du Lido, qui est l'endroit le plus snob pour bronzer. Donc Lido...
Oui, c'est réservé à une élite, quoi.
Voilà, c'est réservé à une élite de l'élite. Hein, donc voilà. Mais ça va commencer comme ça. Ça va venir après, sur les plages un petit peu huppées, c'est-à-dire Deauville, avec Chanel en particulier, qui sera une des adeptes. Et ça va venir peu à peu, et il va y avoir quelque chose de très important qu'on ne dit jamais, mais pour finir cette manière qu'a eu le bikini de disparaître, parce qu'il disparaît complètement. 46, 47, il n'y avait plus rien. Le bikini n'existe plus. Et il va revenir, grâce à une publicité en brosse à l'air, et en particulier grâce à un mannequin qui s'appelle Suzy Bastide. Et Ambrose Soler va avoir l'idée magnifique de prendre une photo de Suzy Bastide en bikini, debout, et d'en faire une silhouette en carton. Et cette silhouette en carton...
En taille réelle, presque.
En taille réelle, exactement. Et ces silhouettes en carton, on va la retrouver devant ou dans tous les points de vente Ambre Solaire de France. Et donc là, on ne se rend pas compte à quel point cette publicité qui a été vue par des millions de Français et partout, on ne se rend pas compte à quel point cette publicité a fait la promotion du bikini. Et on est en 48.
Elle était parfois interdite ou...
Elle était interdite dans beaucoup de pays. Elle était pas interdite, mais il la rangeait en Bretagne. Et il y a même d'autres qui peignaient le corps entre
les deux parties du bikini
pour en faire un maillot de bain, une pièce.
Et il y avait beaucoup de vols aussi, je crois.
Bien sûr. Comme ça n'a pas changé. Hein. Toutes les publicités, les PLV, ça se vole bien, ça.
Quelle est la réaction des magazines de mode au bikini?
C'est simple, il n'y en a pas. Donc, le magazine de mode, en particulier, il n'y a pas de magazine de mode populaire, à part Modes et Travaux et autres, mais qui font, eux, de la couture. Il y a les magazines de mode haut de gamme, qui parlent de la mode en général, et les magazines de mode populaire qui, eux, font de la couture. Donc, dans les magazines de mode haut de gamme, c'est simple, on n'en parle pas. On a pris le parti de Jacquem. Voilà, on parle pas de ces choses un petit peu vulgaires.
Je crois qu'il y a Diana Vreeland qui, dans le Harper's Bazaar aux États-Unis, parle du bikini 1947, mais en France, il n'y a rien du tout.
Il n'y a absolument rien du tout. Donc il y a un couvercle total sur le bikini.
En 1951, Vogue écrit « Nous savons que nos lectrices dénigrent le bikini qui a transformé certaines côtes de nos régions en coulisses de comédie musicale et qui de plus n'embellit pas la femme ».
Bien sûr, non, mais il y a vraiment une manière de dénigrer le bikini, voire de ne pas en parler.
Alors, il est immédiatement interdit sur certaines plages de l'Atlantique, interdit en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réaction, même s'il ne passe pas dans les mœurs, mais il y a déjà une réaction politique.
Oui, mais enfin, bon, il est interdit, donc c'est pas comme ça qu'il va pouvoir exister. Mais c'est vrai que...
Non, mais on prend quand même la peine de l'interdire.
Dans tous les pays catholiques, en général... Ça va être totalement interdit. En Allemagne, c'est aussi interdit, mais pour d'autres raisons, avec le fascisme ambiant. Donc, ça sera impossible de voir un bikini en Europe à cette époque-là, sauf à Benidorm en Espagne.
Ah oui, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est incroyable? C'est un petit port de pêche, Benidorm?
Ah oui, c'est un petit port de pêche en Espagne, à 400 km de Madrid. Et le maire de cette petite ville, de ce petit port, se dit, il commence à y avoir des touristes, bikini, ça serait vachement bien, mais on est sous Franco, donc on n'y pense même pas, à part que lui, il pense. Et il va aller voir, il prend un rendez-vous avec le gouvernement et avec Franco en particulier. Petit détail assez amusant, c'est qu'il n'a pas de voiture, donc il va faire les 460 km en scooter. Il va avoir le rendez-vous avec Franco, donc là c'est bienvenue sur le Titanic. Hein. Et surtout que dans le rendez-vous, il va demander à sa femme, la femme de Franco, d'être là pour donner son avis. Donc de toute façon, il y a 99 chances sur 100 pour que de toute façon ça se fasse pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, puisque dans ce rendez-vous, il n'y avait que 3 personnes et pas de témoins. Mais quand il sort, il a l'autorisation, et uniquement sur Benidorm, et uniquement dans sa ville, d'avoir le bikini. Donc Benidorm va exploser à ce moment-là, parce que c'est le seul endroit d'Espagne où il y a un petit peu de liberté. Et ça tient jusqu'à maintenant, parce que chaque été, il y a 2 millions de personnes qui viennent à Benidorm, qui ont pris l'habitude.
Si cette histoire vous amuse,
France Culture,
on peut la recommencer.
Ils ont changé le monde.
Si c'est pas drôle, je m'excuse.
Les vêtements.
En tout cas, c'est terminé.
Ivan Jacob.
Alors que fait Louis Réard pendant ce temps-là? Parce que le bikini ne prend pas, et lui, est-ce qu'il essaye de continuer d'en vendre?
Il va continuer pendant de nombreuses années, donc il s'est rendu compte que le bikini, c'était pas terrible au niveau de la vente. Donc il va faire ce qui est à la mode à cette époque-là, c'est-à-dire le maillot de bain une pièce. Donc, il va faire des maillots de bain. Comme c'est quelqu'un de pas vraiment raisonnable, il a un catalogue avec 50 types de maillots de bain. Il va essayer à chaque fois de faire du buzz. Alors, il y en a qui sont faits avec des lamelles de bois, d'autres qui sont faites avec des résistances pour pouvoir capter la radio, d'autres avec des trous sur la culotte où on peut bronzer avec le prénom de son petit ami. Enfin, c'est du grand n'importe quoi.
On devrait relancer ça, le maillot de bain qui capte la radio, qui capte France Culture sur les plages. C'est une bonne idée. Alors, Louis Réard meurt en 1984, et 4 ans plus tard, France 3 annonce dans son 19-20 la faillite de l'entreprise.
Louis Réard a toujours voulu être en avance. Il a toujours travaillé, il a toujours été un promoteur. Au sens du terme, je vais avant les autres. Bien. Il a donc voulu, le premier, libérer la femme. Et quand il a vu, après la guerre, que les femmes continuaient à être enserrées dans un carcan, il s'est dit, c'est pas possible. La femme est belle, il faut que je la montre.
Le bikini, une très belle histoire d'amour. Les plus jolies, les plus connues, Brigitte Bardot, Martine Carole, Jane Mansfield, Marilyn Monroe l'ont porté. Mais des anonymes n'ont pas su résister non plus.
Nous avons reçu, il y a quelques temps encore, une photo d'une personne âgée maintenant de 70 ans à peu près, et qui en 47 portait le bikini Réard, et qui nous a envoyé ce petit mot très sympathique. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu ensemble beaucoup de succès.
Malheureusement, cette entreprise ne passera pas Noël. Son directeur doit mettre la clé sous la porte le 24 décembre au soir.
Voilà, c'est assez triste cette histoire de Louis Réard qui n'a jamais vraiment réussi à profiter de son invention. Ce qui est un petit peu cocasse, c'est qu'il est enterré proche de Gabriel Chanel en Suisse.
Il a passé sa vie à essayer de devenir célèbre, mais célèbre d'une manière positive. Il était célèbre, mais pas forcément positif. Donc, il a voulu faire partie des grands de la mode. Il a voulu faire partie du Gotha. Et ce n'est que quand il va mourir, qu'il sera enterré donc au cimetière de Lausanne. Ses voisins de tombe, ça sera Pierre de Coubertin et Geneviève-le-Duc, mais surtout sa voisine la plus proche, c'est Gabrielle Chanel. Et donc ça, c'est pour lui, je pense que ça devait être fabuleux de réunir au firmament de la mode le bikini et la petite robe noire.
C'est incroyable. Alors sans Louis Réard, en tout cas, le bikini va continuer sa route et tout change en 1953 quand Brigitte Bardot pose en bikini sous les objectifs des photographes sur la plage du Carlton à Cannes. C'est pas un Réard qu'elle porte à ce moment-là, Patrice Golubeau?
Ce n'est pas un Réard, je vous le confirme. C'est un bikini dont j'ai jamais trouvé la marque, mais par contre qui est très 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 bikini tel qu'on le connaît à cette époque-là et tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le bikini n'a jamais changé depuis ces années-là.
Et là, cette fois-ci, il passe pas du tout inaperçu, pas comme en 1946.
Ben, c'est-à-dire qu'en gros, la naissance du bikini, c'est cette date-là. C'est cette date-là, c'est-à-dire que...
C'est la vraie naissance du bikini.
La vraie naissance du bikini, c'est Brigitte Bardot qui vient, révéler de tout le côté...
Sulfureux.
Oui, sulfureux, dans la mesure où, en 1952, c'est-à-dire l'année d'avant... elle a tourné dans un film qui s'appelle Manina, la fille sans voile ou autre en France, mais ça a été la reine du bikini en Italie, en Espagne, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très très déshabillée. Et là aussi, des photos du film vont être repeintes parce que le maillot de bain est beaucoup trop petit par rapport à tout ça. Mais par contre, elle vient en 53 avec Vadim, qui lui est venu en tant que journaliste pour faire une interview de Leslie Caron.
Qui est son mari.
Qui est son mari depuis quelques jours. Donc voilà, elle a à peine 18 ans, elle a attendu 18 ans pour avoir l'autorisation de d'épouser Vadim. Et ils vont venir tous les deux, elle va poser sur la plage du Carlton. Et là, il va y avoir beaucoup de photographes, contrairement à Molitor. Il va y avoir beaucoup de photographes parce que Brigitte Bardot n'est pas encore la star planétaire, mais c'est déjà une grande artiste. Voilà.
Et elle fait la promotion du film qui est sorti l'année d'avant ou
Non, pas du tout.
Elle fait sa propre promotion?
Non, elle fait pas du tout sa promotion. Donc, ils sont venus tous les deux pour des raisons extérieures. Donc, ils sont au Festival de Cannes. Mais chacun, elle est pas là pour Manina, lui est pas là pour ses films. Donc non,
Mais c'est pas calculé, c'est-à-dire qu'elle pose sur la plage comme ça parce qu'elle est venue en bikini.
Exactement, c'est pas calculé entre guillemets.
En tout cas, le film Manina, la fille sans voile, qui est rebaptisé d'ailleurs La fille en bikini, je crois, aux États-Unis, il obtient un visa d'exploitation seulement 5 ans après sa sortie en France. Les États-Unis sont beaucoup plus puritains que la France, Patrice Golubeau.
Plus puritains que les États-Unis, surtout à cette époque-là, c'est pas possible. Non, ça c'est clair. Donc,
Il y a le code ACE dans le cinéma?
Justement, dans les tournages, on ne peut absolument pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas porter les vêtements qu'on veut, les comédiens ne peuvent pas s'embrasser. Tout est vu et surtout revu et corrigé. Donc le code S fait que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Donc le bikini, bien évidemment, il y a des films avec Marilyn Monroe, où elle a deux pièces, mais deux pièces qui montent au-dessus du nombril. Le nombril, c'est vraiment... Le code S, c'est terrible.
Mais alors, pourtant, il y a les pin-up aussi dans les années 50 aux États-Unis qui contribuent à habituer l'œil aux deux pièces.
Oui.
Et ils ne montrent pas le nombril, peut-être. Ça dépend.
Si.
Certaines.
Donc,
il y a des culottes hautes et il y a des culottes basses.
Il y a des culottes hautes et des culottes basses, mais c'est surtout pour tout ce qui est live. Là, les pin-up, on est dans l'art. Donc, il y a plus cette possibilité-là.
Et il y a moins de censure sur les photos que dans le cinéma, sans doute.
Il y a des censures sur les photos, mais pas sur les peintures.
Toujours est-il que malgré les résistances, le bikini devient populaire. Il est consacré vêtement de la saison en 1959 par Vogue, qui en disait pique-prendre 8 ans plus tôt. Pourquoi dans les années 60, il devient plus acceptable, ce bikini, Patrice Golubeau?
Pour une raison simple, c'est que la règle du jeu change tous les matins. Donc les mentalités changent, évoluent. On est encore après-guerre, mais on est passé avec le chiffre 5 dans les années 50. Et les années 50, il va y avoir une espèce de vent de modernité qui fait que même les gens qui ont des piques pendres du bikini, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc
Et puis il y a surtout une jeunesse nouvelle, celle des baby-boomers qui atteignent l'adolescence.
Il y a la jeunesse nouvelle, il y a une musique nouvelle. Donc il y a vraiment des choses qui changent dès les années 50. Alors que en 49, on est encore dans l'après-guerre. C'est-à-dire les tickets de rationnement se terminent en décembre 49.
C'est aussi un enfant de la mode yéyé. C'est aussi cette émergence soit d'une jeunesse et d'une mode à part adolescente qui n'existe pas auparavant.
Bien sûr. L'explosion de la musique fait qu'on est passé à autre chose. Ça c'est clair.
C'est aussi le temps du dévoilement des corps, de la mini-jupe, à laquelle participe grandement André Courrèges. Courrèges disait « Je laisse au corps toute sa liberté. L'évolution sociale de la femme est telle qu'il n'est plus question par de faux volumes d'entraver ou de cacher le corps. » Est-ce que c'est aussi grâce à Courrèges que le bikini a pu se généraliser ?
Non, je pense pas. Je pense que le bikini s'est généralisé doucement. Je pense que il y a trois femmes qui ont contribué au succès du bikini, et au succès qui ne se dément pas, puisque de toute façon c'est encore aujourd'hui. Je pense que c'est en 48, Suzy Bastide, avec la publicité Ambre Solaire. En 53, Brigitte Bardot sur la plage du Carlton. Et en 63, Ursula Andress avec James Bond. C'est vraiment ces trois dates qui font que on va s'habituer peu à peu à ce qui était impensable. Et après Ursula Andress, on parle plus de rien. Voilà, le bikini, c'est comme le jean, on se pose plus la question.
Alors justement, en 1962, Ursula Andress sort de l'eau dans un bikini avec une ceinture et sur la culotte un poignard, sans doute le bikini le plus célèbre de l'histoire.
Il règne ce matin chez Christie's une atmosphère de suspicion et de convoitise. Qui aura les moyens d'acquérir l'un de ces objets mythiques de la célèbre série des James Bond ? Le pistolet à air comprimé de Bon Baiser de Russie ou l'ensemble de nuit estampillé des initiales magiques ? Des bagatelles estimées entre 40 et 50 000 francs. La Rolex de Vivre et laisser mourir, elle, ne partira pas à moins de 150 000 francs. Elle permet de couper des liens, mais aussi d'ouvrir des fermetures éclair. Aujourd'hui, la pièce maîtresse dans la célèbre salle des ventes londonienne, ce n'est pas une commode victorienne, mais deux petits morceaux de tissu portés par la première d'une longue série de séductrices de l'agent 007, Ursula Andress, la naïade de James Bond contre Dr. No. Mais qui est-ce que ça peut intéresser ?
Bikini fetishist.
Des fétichistes du bikini, je suppose.
Et cet objet est évalué à combien ?
Le bikini ? On s'attend à ce qu'il fasse dans les 500 000 francs.
Il a été vendu autour de 60 000 livres, finalement, ce bikini. Patrice Golupo, le cinéma a fait énormément pour le bikini.
C'est surtout ce film-là qui a fait énormément pour le bikini. Parce que on a vraiment l'impression que tout ce qui pouvait faire en sorte qu'on ait encore des réserves par rapport au bikini. Le fait que Ursula Andress sorte de l'eau avec son bikini et son poignard, c'est tellement iconique, j'aime pas trop ça, mais enfin c'est tellement iconique. Et en plus, ce qui est absolument fabuleux, c'est que rien n'est prévu. C'est-à-dire que le James Bond, c'est le premier James Bond. On pense pas que 40 ans après, on en fera encore.
C'est le tout premier de la série, mais à ce moment-là...
Les acteurs ne sont même pas connus. Sean Connery, il n'est pas connu. Il doit même pas être... Il n'est même pas accepté dans le casting. Après, il a été imposé, puisqu'on pense que il a un look de paysan, sans classe et autres, Sean Connery. Quant à Ursula Andress, elle est imposée par son mari, qui était producteur, et John Derek. C'est un petit budget. C'est tellement un petit budget que le bikini d'Ursula Andress ne va même pas être fait en Angleterre. c'est-à-dire qu'ils vont le faire sur place à la Jamaïque, ils vont donner à faire ça à un petit couturier dans la rue d'à côté. Donc rien n'est prévu. Donc c'est un film d'aventure comme il y en a 150 à cette époque-là. Mais là, ça va devenir, là on ne sait pas pourquoi, c'est toujours la théorie du courant d'air, il y a une porte et une fenêtre qui s'ouvrent en même temps, ça crée un courant d'air, ce courant d'air ne s'est jamais arrêté.
Mais si cette scène a autant marqué les spectateurs, c'est parce que ce n'est pas encore très courant de voir une femme en bikini dans les années 60 au cinéma ?
C'est pas courant du tout, et de faire en sorte que cette femme est toute seule à l'écran, c'est cinématographiquement, c'est très très fort. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette image très très forte, si vous regardez le film, je l'ai revu il y a peu de temps, c'est quand même un gros nanar quand même. C'est fait avec des moufles. Hein. Donc c'est vraiment un petit film avec petit budget. Mais cette scène-là, elle est magnifique.
C'est la fin du code Hays aussi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a le droit de montrer des bikinis à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, c'est-à-dire que là, c'est pareil. Le code Hays, c'est comme le bikini. Il s'est usé. À force de tout vérifier, de tout interdire, le cinéma s'est totalement affadi. Et donc, au bout d'un moment, on passe à autre chose. Le code Hays s'est pourri de lui-même. Il est tombé comme un fruit mûr.
On entendait tout à l'heure dans une archive que Louis Réard avait libéré les femmes, mais évidemment le bikini n'est pas féministe pour tout le monde. L'écrivaine Eliette Abécassis a dit de lui, c'est un nouveau corset. Et c'est vrai que le bikini va s'accompagner de nouvelles exigences.
Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Le maillot de bain à bronzage intégral.
Est-ce que ça bronze ?
Oui, ça bronze très bien. Oui.
Alors ça fait un peu plus de 3 semaines que l'on parle de ces fameux maillots de bain qui permettent de bronzer intégralement. Alors de quoi s'agit-il exactement ?
Bien, alors c'est un maillot qui est fait en voile de coton, qui est traité ou travaillé de manière un peu particulière pour laisser passer des radiations, pour bronzer à travers, mais pour ne pas laisser passer le regard. Alors, vous voyez que c'est fait dans un tissu assez mince, mais qui est parfaitement décent et qui est très joli d'ailleurs dans son aspect.
Alors lorsque ces charmantes jeunes filles se baignent, c'est toujours aussi peu transparent qu'en ce moment.
Ah, et on peut très bien aller dans l'eau avec, il n'y a aucun problème. Ce maillot reste exactement comme il est maintenant.
C'était un reportage sur la plage en 1969 avec des jeunes femmes en bikini. Patrice Golupo, quand on parle de nouveaux corsets, c'est en référence aux nouveaux diktats qui pèsent sur les femmes. Il y a la minceur, il y a le bronzage aussi, ça c'est assez nouveau dans l'histoire ?
Non, le bronzage n'est pas nouveau puisqu'il a déjà 50 ans. Le vrai problème, c'est que pour le bronzage, c'est que on n'a pas encore découvert les méfaits du bronzage. Donc, à partir du moment où on peut bronzer non-stop, être totalement noir, c'est pas un problème. Jusqu'au moment où il y a des médecins qui vont quand même se rendre compte qu'il y a des gros problèmes derrière. Et c'est la médecine qui va arrêter cette mode du bronzage. Donc là c'est pareil, ça vient peu à peu.
Ça va porter un coup au bikini, ça. Le fait qu'on découvre les méfaits du soleil.
Pas du tout, le bikini vous en trouvez 150 000 partout chez tous les marchands. Là on est en 25 et il y a des bikinis partout. Et c'est le même.
En 2025.
2025, oui. C'est toujours le même bikini.
Ce qui est vrai quand même avec le bikini, c'est que le corps des femmes est encore plus scruté, au point qu'on n'hésite pas à dissimuler des stratagèmes, même sous de tout petits bouts de tissu.
Le slogan de ce nouveau produit qui va révolutionner les plages californiennes pourrait être « Gonfler ce sein que je ne puis avoir ». Une manufacture a en effet créé le bikini gonflable. Pour toutes les demoiselles désespérées de ne pas avoir les poumons généreux d'une Jane Mansfield ou d'une Marilyn Monroe, elles pourront désormais, d'une simple pression du pouce sur cette petite pompe, obtenir le tour de poitrine désiré. Moins dangereux que le silicone, plus confortable et moins chaud que le bourrage au coton, transformez-vous en créature plantureuse qui fera loucher les hidalgos des plages. Le secret, 2 petits réservoirs de plastique insérés dans le soutien-gorge, reliés à une petite pompe entre les seins. le gonflage est manuel, mais oui messieurs, et réglable à volonté. Fini l'ère des limons de sol, place aux obus carénés si chers au regretté Howard Hughes. Quelques petites précautions d'usage sont néanmoins à prendre, comme éviter de porter une broche ou un pins, et bien entendu de faire très attention aux oursins. Les Américaines semblent une fois de plus décidées à nous prouver que dans le domaine de la beauté, elles ne sont pas des dégonflées. Il paraît même que ce bikini améliore la flottabilité. En tout cas, avec ce genre de bouée, elles ne risquent pas de couler.
Ivan Jacob.
Une publicité pour le bikini gonflable, partagée par le Trésor de TF1 en 1992. Alors là, Patrice Golupo, c'est sur le ton de l'humour, mais aujourd'hui, on parle encore beaucoup du body summer, le corps idéal qu'il faudrait préparer pour l'été. Est-ce que, selon vous, le bikini a beaucoup développé cette obsession du corps parfait ?
Forcément, dans la mesure où c'est le maillot de bain qui est le plus minimaliste, à part celui de 46 et peut-être le maillot de Rudi Gernreich avec le Molokini. Mais c'est évident qu'une femme étant pratiquement déshabillée en bikini, elle a intérêt à être belle, au moins dans sa tête. C'est évident que il y a beaucoup de femmes ne se sentant pas suffisamment belles qui vont se baigner avec un maillot de bain une pièce. Donc, bien évidemment, ça existe, ça.
Mais c'est à partir des années 60 que les magazines féminins vont sortir leur marronnier à partir du mois d'avril, à peu près, de préparer son corps, au bronzage, de préparer son corps à être plus mince, à perdre les kilos d'été. Et c'est l'explosion aussi de programmes comme Weight Watchers, qui n'existaient pas avant, pour perdre du poids. Cette obsession, elle est quand même assez corollaire du bikini.
Oui, mais je pense que c'est pas là, il n'y a pas de responsabilité, on va dire. Ça fait partie des choses qui sont devenues, là aussi, on parlait des médecins tout à l'heure, et là, c'est pareil, c'est vrai que le fait d'être trop gros, trop grosse, fait que c'est déconseillé.
Alors à un moment, le maillot une pièce, il est revenu en force. Vous disiez tout à l'heure qu'on est en 2025, il y a encore énormément de bikinis, mais il y a eu des petits ajustements entre le bikini, le deux pièces en tout cas, et le maillot une pièce, avec des moments de l'histoire où le une pièce a été un petit peu plus en vue. Peut-être une façon pour les femmes aussi de se redonner du confort ou de la légèreté d'esprit sans penser à son corps.
Ce qui a fait que le maillot de bain une pièce est revenu, c'est les nouvelles matières. C'est ce qu'on appelle les matières intelligentes maintenant.
C'est quoi ces matières, par exemple?
C'est tout ce qui est les dérivés du pétrole et des dérivés des bureaux d'études qui sèchent en un quart d'heure, donc qui ne grattent pas. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles matières qui font que on peut avoir un maillot de bain une pièce, donc qui est, on va dire, quatre fois plus
couvrant
qu'un bikini, en étant tout à fait à l'aise.
Alors, vous l'évoquiez rapidement, on peut aller un peu plus loin en termes de dévoilement du corps avec le monokini, qui n'est pas le fait de porter un bikini seulement en bas, comme on le croit souvent. C'est un vrai maillot de bain. Patrice Golupo, le monokini, qu'est-ce que c'est ?
Alors là, c'est quelqu'un un peu comme Réard qui a eu une idée dans le style « tiens, je vais faire le monokini ». Donc bien évidemment, le monokini, ne pas confondre avec le topless. Le monokini est un véritable maillot de bain, donc qui a une culotte très très haute, tellement haute qu'elle va terminer en pointe entre les seins et les seins découverts, avec des bretelles qui tiennent dans le dos. Mais en gros, c'est quelque chose qui n'a pas existé réellement. Il y a eu un dévoilement médiatique dans une piscine, en plus avec un mannequin qui était très connu, Peggy Muffet. Mais on n'en a plus jamais entendu parler. On l'a vu un petit peu au Festival de Cannes pour faire encore une séance de photos façon Brigitte Bardot. Et après, le maillot est tombé totalement dans l'oubli. Et d'ailleurs, il est totalement introuvable. Après 20 ans de
collection,
on n'en a jamais eu.
Alors, c'est en 1963, le monokini de Rudi Geinreich. Il y a une injustice énorme quand même avec les hommes, parce que les femmes n'ont toujours pas le droit d'être torse nu, en tout cas pas partout. On parlait du topless. C'est-à-dire que les hommes, on en parle assez rarement d'ailleurs, mais il y a aussi une évolution du maillot de bain pour les hommes qui devait être couvrant aussi dans la première moitié du XXe siècle. Mais il est devenu assez peu couvrant. Il peut prendre la forme d'un slip, tout simplement. En revanche, pour les femmes, il y a plein d'endroits où on ne peut pas être torse nu.
Ah bah torse nu, c'est totalement impossible maintenant. Donc ça a été...
Ça se fait encore sur certaines plages.
Oui, mais ça se fait encore. Mais ça a été très très à la mode dans les années 70. Voilà, donc, mais très très rapidement, la mode s'est éteinte. Voilà.
Alors il y a eu aussi le trikini, le burkini. Finalement, le bikini est devenu une sorte de maître étalon pour tout ce qui touche au maillot de bain. Tout se fait encore en fonction de lui, Patrice Golupeau.
Oui, mais en même temps, tout ce qui est trikini, burkini et autres, tout ça, c'est du boulot de journaliste, c'est du boulot de médiatique. Donc c'est évident que... quand on voit un burkini, moi, quand je vois un burkini, je vois quelqu'un qui est habillé pratiquement comme elle est habillée en ville et qui va se baigner avec. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment des trucs médiatiques. Voilà, c'est ça.
Mais c'est vraiment intéressant qu'on ait gardé le nom, oui, voilà, la référence ça. Au nom, comme si le bikini avait toujours été la référence du maillot de bain.
De toute façon, ce qui est assez magique, puisqu'on est là pour parler de Louis-Art, c'est qu'il a trouvé un nom génial. C'est entre corset et bikini, ça s'écrit pareil dans toutes les langues. Donc, même s'il n'a jamais eu le résultat de son dépôt, il a déposé un truc fabuleux. Bikini, c'est totalement magique dans tous les pays.
Patrice Golupeau, le bikini va fêter ses 80 ans en 2026. Est-ce que vous pensez que le bikini est indémodable et immortel ?
Bah, il est bien parti. Il est bien parti pour. Donc, le corset a beaucoup bougé en 50 ans et il a fini par mourir. Le jean a beaucoup bougé, même s'il y a des choses qui ont fait que le jean a bougé, mais c'est toujours le même. Mais il y a eu des choses qui ont bougé. Par exemple, le jean troué, le premier jean troué que j'ai vu, c'était en 84. Mais en même temps, voilà, le jean, lui, est parti pour faire la carrière du bikini. Même s'il change beaucoup, il est parti pour être immortel. Parce qu'en plus, lui, il est parti bien avant 1946. Donc voilà, donc non, le bikini, je ne vois vraiment pas pourquoi, à part si on avait des gouvernements autoritaires, on va dire,
ouais,
qui les interdisent. Non, non, je pense réellement que le bikini est parti pour continuer, pour moi, comme le jean. Moi, c'est les deux comparaisons que je fais.
Mais sans trou, parce que sinon il restera vraiment plus...
Mais sans trou, on est bien d'accord.
Merci Patrice Golupeau. Vous avez vendu votre collection de bains, qui est totalement incroyable, à un musée en Allemagne. Qui se trouve où ?
Il se trouve pas loin de Regensburg, sur une station d'autoroute à l'allemande, parce que les stations d'autoroute à l'allemande, c'est des petites villes. Et donc le musée existe depuis 3 ou 4 ans maintenant. Donc il travaille avec notre collection, mais avec des choses en plus. Ils ont acheté un des maillots de bain d'Albert à Malibu. Donc voilà, donc non, il continue à investir dans cette veine.
Voilà, si vous passez mettre de l'essence en Allemagne, n'hésitez pas à visiter ce musée. Merci beaucoup Patrice Golupeau. Merci à Laurence Millet qui a réalisé cette émission, à Audrey Carme et à Lilou Maupetit qui ont aidé à la préparer. Merci aussi à Jean-Guilain Meige et à Ruben Carmazine. Aujourd'hui à la technique, c'était Mineta Diawara. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les autres vêtements qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.